Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Des enfers à la mine, quand l'histoire explore les mondes souterrains. Une des plus grandes peurs qui traverse l'histoire de l'humanité dans la pluralité de ses civilisations porte un nom. Taphophobie, taphos, la tombe, phobos, la peur d'être enterré vivant. Ah, ils sont complexes, ces mondes souterrains réputés sombres, humides, froids. Un univers où le labeur est dur, mais parfois, ils deviennent protecteurs, refuges, sources de richesses et pourquoi pas, inspirants pour les artistes. Dans le cours de l'histoire, 20 000 lieues sous la terre, les mondes souterrains nous aspirent.
Les racines n'expliquent pas l'arbre. Mais même l'arbre coupé, elle subsiste. C'est vers ses racines que nous allons descendre.
Le plus grand des mystères se trouve ici. Ici, sous nos pieds.
Au centre de la Terre.
Bon Dieu, c'est pas large. On est comme des ramoneurs dans une cheminée.
Allez, allez, avancez, avancez.
Orphée et son guide se traînent, tour à tour empêchés et emportés par un grand souffle. Inexplicable.
Que le Seigneur soit avec nous.
En avant.
Enfonçons-nous dans la terre. Bonjour Jean-Jacques Terrin.
Bonjour.
Vous êtes architecte, docteur en architecture, professeur émérite à l'école d'architecture Le Monde Souterrain. C'est un ouvrage que vous avez publié chez Azan. Et puis il y a cette exposition Monde Souterrain, 20 000 lieues sous la terre au Louvre, au Lens. Un architecte construit sur la terre habituellement. Comment en arrive-t-on à s'intéresser à ce qui se passe sous la terre ?
J'étais en relation avec les éditions Azan et Jean-François Bariel pour écrire un livre sur les coupoles que j'ai réalisé. Et lors d'un entretien, disons, autour d'une bouteille de Bourgogne, Jean-François m'a dit « Et si on écrivait quelque chose sur le monde souterrain ?» Je lui ai dit « C'est quoi pour vous le monde souterrain ?» Il m'a dit « C'est tout, les diables, les volcans, les métros, les petits lapins. » Et je lui ai dit « On ne peut pas écrire un livre sur tout ça. » Il m'a dit « Réfléchissez, revenez-moi dans 3 mois. » Et je lui ai proposé, en fait, un guide de voyage. Un guide de voyage qui donnait des informations sur les différents espaces souterrains. Et donc, on a parlé des petits lapins, des rails métro, etc. Et quelques temps plus tard, 10 ans plus tard, Marie Lavandier, la directrice du Louvre à l'époque, prend contact avec moi et me dit « Dans mon programme, j'ai prévu de faire une exposition sur le monde souterrain. Je suis tombé sur votre livre. Ça correspond assez bien à ce que je voudrais faire. Est-ce que vous voulez assurer le commissariat ?» Je lui dis bien volontiers, mais pas seul. Je ne suis pas historien d'art, je ne suis qu'architecte. Et donc, c'est ainsi que l'équipe s'est constituée autour de ce projet, avec Alexandre ici présent et Gauthier Verbeek, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre.
Alexandre Estaquet-Legrand, bonjour.
Bonjour.
Conservateur du patrimoine, directeur du MUDO, le musée de l'Oise, et puis commissaire, co-commissaire de cette exposition Monde Souterrain, 20 000 lieues sous la terre. Vous aussi, vous avez remarqué, hein, et c'est important de le souligner, l'importance des moments passés à table et des bons crus avec modération pour l'avancée de la recherche historique. Et intéressant de regarder le souterrain. Bien souvent, c'est la lumière qui est mise en avant. Ici, nous sommes dans un monde a priori sans lumière. Et c'est en cela que mettre la lumière sur ce monde sans lumière permet de mieux le comprendre.
C'est tout à fait ça, parce qu'effectivement, si ce monde qui est réputé être invisible est par définition obscur, puisque la lumière du jour n'y entre pas, on s'aperçoit, plus on creuse, sans mauvais jeu de mots, que finalement, c'est justement en allant à la découverte, à l'exploration de ces mondes invisibles, qu'on parvient à ramener une certaine lumière qui nous permet de comprendre autrement ce que l'on a à la surface. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre, à creuser et à aller voir ce qui se passe sous nos pieds, aussi bien en termes concrets qu'en termes conceptuels, philosophiques, religieux, littéraire aussi.
Jean-Jacques Terrin, vraiment ça, la diversité de ce que l'on peut trouver sur Terre, c'est d'ailleurs même immense, ça nécessite une vraie organisation d'esprit parce qu'on pourrait partir dans tous les sens.
Alors, en fait, il y a deux grandes idées qui président et auxquelles on a réfléchi pour cette exposition, parce qu'effectivement, il fallait faire des tris, etc. La première, c'est l'idée du parcours. On se promène, on promène notre visiteur, on l'initie. C'est un parcours donc un peu initiatique. On l'initie à travers un certain nombre d'ambiances diverses et très variées, depuis la descente vers les profondeurs jusqu'aux remontées à la surface. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que, quelque part, ce qu'il va découvrir dans le fond, les tréfonds de la Terre, est finalement assez semblable à ce qu'il vit sur Terre, même si c'est déformé, caricaturé, par toutes sortes d'imaginaires, de doctrines, d'idées plus ou moins farfelues. Mais c'est au fond la même chose. Et d'ailleurs, on parle de lumière et d'obscurité. Dans toutes les œuvres qui sont exposées, il y a de l'obscurité, mais toujours, quelque part, il y a un rayon de soleil, un petit ciel bleu, une étoile, une lune, quelque chose qui donne l'impression que le haut et le bas sont en relation permanente.
Avec une histoire des représentations, bien sûr, au sens où comment a-t-on pu, par le passé, s'imaginer ces mondes souterrains? C'est aussi une histoire de la méconnaissance, d'ailleurs, d'univers qui, aujourd'hui encore, mérite d'être exploré.
C'est exactement ça, parce que quand on se penche sur les premières considérations, les premières représentations et même les premiers textes qui nous parlent de ces mondes souterrains, on constate qu'effectivement ils sont à l'origine non explorés et les civilisations, quelles qu'elles soient, vont imaginer effectivement que il se passe tout et son contraire sous nos pieds, et notamment tout ce qui effraie, tout ce qui fait peur, hein, c'est le premier pendant qu'on a cherché à développer dans notre réflexion, dans le parcours initiatique qu'évoquait Jean-Jacques. Et effectivement, ces mondes souterrains sont même plus que simplement le refuge d'idées plus ou moins farfelues, comme tu le disais à l'instant, mais pourraient renvoyer aussi peut-être à d'autres mondes souterrains, et on aura peut-être l'occasion d'en parler après, je pense, mais qui nous renvoie à notre propre individualité et à notre propre psyché, finalement. Est-ce que le monde souterrain n'est pas un moyen pour l'humanité de donner corps à ce qu'il a au plus profond de lui-même? Et c'est en ça que c'est véritablement passionnant de se livrer à cette exploration, parce qu'on s'aperçoit qu'en plus, il y a des traits communs, quelle que soit la civilisation, quelle que soit l'époque, qui donnent effectivement des images très particulières, très fantasmées à l'origine, il est vrai, mais qui aujourd'hui, avec notre regard d'hommes et de femmes du 21e siècle, nous permettent d'éclairer justement notre monde différemment.
Oui, parce que la notion de parcours prend tout son sens ici. Hein. On va d'un espace à un autre et nous allons de plus en plus profondément, non pas dans la peur, bien loin de là, mais plutôt dans la connaissance ou l'exploration de ces mondes-là.
Oui, pour paraphraser Freud et pour compléter ce que dit Alexandre, il y a dans cette exposition la nécessité ou la volonté d'exprimer cette étrange inquiétude que Freud évoque dans son petit essai, cette étrange inquiétude qui fait que on ne sait jamais très bien où l'on est, et donc nous avons accentué très fort ce parcours par des ambiances très marquées. On démarre dans le noir, labyrinthique, et puis petit à petit les choses s'éclaircissent, mais très lentement, de façon à effectivement transformer cette méconnaissance dont vous parlez, qui a existé jusqu'à l'aube de notre siècle, puisque le CNRS que nous exposons dans le parcours montre des choses qui sont très très récentes et découvertes aujourd'hui.
Avec une histoire vraiment sensorielle, on le voit bien. C'est très important de le souligner ici, parce que être dans un monde souterrain, c'est l'obscurité, c'est l'humidité, c'est vraiment ça aussi qu'il faut mettre en avant. Et puis toujours cette peur avec des bruits plus ou moins étranges.
C'est vraiment comme ça qu'on a voulu construire le parcours d'exposition et surtout sa scénographie, pour que le visiteur n'ait pas qu'une expérience esthétique au contact des œuvres, quelles qu'elles soient, mais qu'il ait une expérience total de visite et qu'il soit vraiment plongé dans des environnements différents. Et on a eu la chance de pouvoir travailler avec Mathis Boucher, donc l'architecte scénographe du Louvre-Lens, qui a très rapidement compris ce qu'on voulait faire passer comme message, et je pense qu'il a bien réussi à
traduire, à transposer ce qu'on imaginait tous les trois, avec effectivement, dès le début de l'introduction, un sas qui nous coupe finalement de tous les repères que l'on peut avoir du monde normal à la surface de la Terre, dans un sas très obscur où finalement on n'est plus bien sûr de savoir ce que l'on regarde, ce que l'on entend. Et suite à ce sas d'introduction, une vraie descente pour le coup littérale dans les entrailles de la Terre, avec effectivement des bruissements de créatures, d'ailes de chauve-souris, des gouttes qui tombent de stalactites, et voilà. Au gré du parcours, on a voulu aussi proposer des points de vue assez particuliers sur des œuvres qui le sont tout autant et qui permettent aux visiteurs justement de se situer totalement sous terre, ou d'en avoir l'impression finalement.
Gaïa, la Terre. La Terre est un espace solide, compact, et sur lequel on peut marcher. C'est un plancher. Le monde a un plancher. Et elle se prolonge vers le haut par des montagnes, et elle se prolonge vers le bas, en quelque sorte dans le chaos d'où elle est issue, par une sorte de racine infernale, nocturne. Dans son fond, c'est la terre noire, c'est la terre nocturne, c'est la terre qui sera celle où sont emprisonnés les morts.
L'historien Jean-Pierre Vernant, en 1999 sur France Culture, qui évoque Gaïa, la Terre, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Jean-Jacques Terrain, c'est la Terre avant tout. Souterrain, c'est être sous terre, mais déjà, faut-il savoir ce qu'est la Terre? Il y a énormément de mystères. Qu'y a-t-il sous nos pieds?
Il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette exposition que nous avons découvert finalement, puisque nous sommes ni spéléologues, ni spécialistes vraiment de ce sujet, c'est que toute l'exposition repose à la fois sur des connaissances scientifiques qui se sont qui ont fusionné depuis Aristote jusqu'aux dernières modélisations du CNRS que j'évoquais tout à l'heure, et à la fois par la littérature. C'est une exposition très littéraire. Depuis la comédie divine jusqu'à Jules Verne, et on s'aperçoit que il y a une espèce de fil conducteur depuis les quatre éléments d'Aristote qui ont été largement brassés jusqu'à assez récemment, jusqu'au XVIIIe siècle, avec un certain nombre de mélangés, un certain nombre de doctrines diverses et variées. Mais derrière cette première intuition, je dirais, il y a eu toute une ribambelle d'idées. Alors, tout d'abord, la première, c'était que la Terre était une étoile qui s'éteignait petit à petit, mais qui était en fusion. Donc le feu, et puis d'autres qui ont mêlé le feu et l'eau, l'alambic de Pascal, et donc expliqué les fumerolles et autres choses. Et puis on s'est dit que finalement les océans étaient importants et qu'ils filtraient l'eau à l'intérieur, et que finalement peut-être que la Terre était en fait remplie d'eau. Et puis enfin, il y a eu cette étonnante théorie de la Terre creuse, qui a sévi encore, je crois qu'il y a encore des sociétés soi-disant savantes qui y croient, et dont Jules Verne a fait ses choux gras, et qui pensait que dans cette Terre, il y avait peut-être un soleil, et qu'autour de ce soleil tournaient des planètes, et que peut-être sur ces planètes, il y avait des gens qui vivaient, etc., etc. Et tout le 19e siècle est empli de cette chimère.
Voyage au centre de la Terre.
C'est une mer, c'est un océan avec flux et reflux.
L'océan des entrailles du monde.
Quelques tremblements de terre d'avant les débuts de l'histoire a fissuré le fond de l'océan dont les eaux s'engouffrèrent ici. Les fissures ensuite se sont bouchées. Jamais aucune carte n'a signalé l'océan Saknussemm. C'est ainsi que je l'ai baptisé pendant votre sommeil.
C'est le privilège de celui qui découvre. Mes félicitations.
Ah.
Mètre-don.
Si j'avais mon arme, on aurait de la viande fraîche pour dîner.
C'est ce que le monstre se dit. C'est un carnivore.
Voyage au centre de la Terre, en 1959, alors le livre de Jules Verne, c'est 1864, ce moment où il y a toutes ces réflexions sur qu'est-ce que la Terre, avec ces différents éléments, ceux d'Aristote que vous évoquiez, la Terre, l'eau, l'air et le feu. Alexandre Estaquet-Legrand, voyage au centre de la Terre, bien sûr, c'est un moment très important dans cette réflexion sur la Terre et ça a donné le sous-titre à l'exposition Monde souterrain, 20 milieux sous la Terre, donc 20 milieux sous les mers, clin d'œil à Jules Verne. Il y a ce voyage sans cesse, mais c'est ça aussi qui nous passionne, c'est que ces mondes souterrains sont l'objet de fantasmes. Et on l'a dit, il y a cette confrontation sans cesse entre la recherche scientifique et le fantasme. Et on a envie des deux. Enfin, moi, j'ai envie des deux.
Et on en avait très envie, nous aussi. Il a fallu, de fait, effectivement, sélectionner quel type d'imaginaire, quel récit, finalement, pouvait illustrer un peu ce pendant à l'approche scientifique qu'évoquait Jean-Jacques à l'instant. Et c'est vrai que sur les textes littéraires antiques, il y a énormément de descriptions, justement, de ces mondes souterrains que l'on va imaginer, qui reposent sur des croyances religieuses. Quand on se situe, notamment, dans les civilisations gréco-romaines, on pense, bien évidemment, aux divinités chtoniennes, à Hadès, hein, qui donne d'ailleurs même son nom à cette dimension souterraine des enfers. Et pour bien justement représenter cette longévité du thème littéraire de la descente aux enfers et de ce qu'on va imaginer sous nos pieds, on a choisi d'utiliser deux textes excessivement importants et très largement mis en scène par les artistes à différentes époques, à commencer par l'Énéide de Virgile et également la Dante Virgile, la Divine Comédie, puisque alors, du côté du poète latin, on a effectivement ce héros qui donne son nom à l'épopée, qui part à la rencontre d'une guide, hein, la Sibylle, la prophétesse qui est si importante pour nous dans l'exposition, et qui finalement, grâce à elle, va pouvoir descendre dans ce que les Romains appellent l'Orcus, hein, donc l'enfer, pour rencontrer justement tous les habitants du monde souterrain, ses gardiens, ses passeurs, ses âmes grises. Et on s'aperçoit que dans l'histoire de l'art, ce thème, souvent repris par les hommes et les femmes de lettres à l'époque moderne, donne lieu à des représentations complètement folles. On a la chance d'avoir dans l'exposition une représentation justement de ce thème par un suiveur de Bosch qui livre une saisissante vision justement de ce que pourrait être l'enfer, avec une porte d'accès d'une certaine manière qui prend l'aspect d'une gueule, d'un monstre marin, une gueule béante assez effrayante. Et finalement, au fond de cet orcus, qu'est-ce qu'on voit dans l'esprit de cet artiste? On voit que le monde souterrain, il est comme le monde terrestre, c'est-à-dire qu'il va imaginer des architectures qui sont les mêmes finalement que dans notre monde et qu'il transpose dans un environnement un peu plus rougeoyant, avec un peu plus de fumée. Et c'est en cela finalement que les mondes souterrains, puisqu'on ne les connaît pas à certaines époques, on va leur donner un corps et on va les peupler avec les références finalement que l'on connaît à la surface, en les modifiant peu ou prou, quelque part, et d'où cette idée qu'effectivement le monde souterrain, même s'il est fantasmé, imaginaire, qu'il repose sur des croyances, sur des traditions littéraires, il constitue en fait un miroir déformé de ce que l'on connaît à la surface.
Miroir déformé, miroir un peu plus angoissant, c'est un monde paradisiaque ou plutôt qui tend vers l'enfer, parce que dans ces imaginaires, l'enfer est souvent souterrain, avec la précision à apporter que l'enfer que nous connaissons, celui du monde chrétien, est bien différent de l'enfer de l'Antiquité, qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Quand on évoque cet enfer de l'Antiquité, on n'est pas dans quelque chose qui réunit tous ceux qui ont eu une mauvaise vie.
Alors, en fait, je crois qu'il faut, que nous parlions d'un moment, important de l'exposition, parce qu'on n'a parlé que de l'enfer noir, sombre, et un moment, tout d'un coup, cet enfer bascule de cet univers rougeoyant qu'on a évoqué vers un univers beaucoup plus doux, beaucoup plus riche, au sens strict du terme, et beaucoup plus fertile. Et cette confrontation entre ces deux enfers, ces deux mondes souterrains, l'un ou comme dans notre jargon de de scénographie, nous appelons le l'enfer des bad boys et des bad girls d'ailleurs, et puis de l'autre côté l'enfer de la germination, des terres-mères, des humus, des racines que vous évoquiez tout à l'heure, et tout ça se confronte assez harmonieusement, parce que certaines divinités pourraient participer de l'un ou de l'autre. Certains attributs, comme le serpent, peuvent se retrouvent d'un côté comme de l'autre. Et donc, il y a une sorte de transition. Et on a beaucoup marqué, on a marqué très fort cette transition en mettant entre les deux la caverne de Platon.
La caverne de Platon, qui demeure comme une évidence, hein, une référence. C'est vrai qu'on a cité Freud tout à l'heure, qui nous conduit aussi à la caverne. Mais la caverne, la première, bon oui, c'est celle de Platon.
Crois-tu que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre, d'eux-mêmes et les uns des autres, que les ombres qui, sous l'effet du feu, se projettent sur la paroi de la grotte en face d'eux? Comment auraient-ils fait, dit-il, puisqu'ils ont été contraints tout au long de leur vie de garder la tête immobile? Et en ce qui concerne les objets transportés, n'est-ce pas la même chose? Bien sûr que si. Alors s'ils étaient à même de parler les uns avec les autres, ne crois-tu pas qu'ils considéreraient ce qu'ils verraient comme ce qui est réellement? Si, nécessairement. Et que se passerait-il si la prison comportait aussi un écho venant de la paroi d'en face? Chaque fois que l'un de ceux qui passent émettrait un son, crois-tu qu'il penserait que ce qu'il aimait est autre chose que l'ombre qui passe? Non, par Zeus, je ne le crois pas, dit Glaucon. Dès lors, dis-je, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués.
L'allégorie de la caverne de Platon, lue par Vincent Schmitt, c'était sur France Culture en 2019, avec ici cette allégorie, Alexandre Estacquet-Legrand, qui vraiment fait toute la réflexion que nous tenons depuis tout à l'heure autour du vrai et du faux, de ce miroir déformant que vous évoquiez. Il y a vraiment de ça avec ces mondes souterrains. Et la caverne de Platon, c'est juste une réflexion sur la réalité, sur ce que nous voyons. C'est bien de se mettre en souterrain pour essayer de réfléchir un peu à cette notion de réalité.
C'est bien de se mettre en souterrain pour ça, parce qu'effectivement, le monde souterrain se prête par définition à un univers de réflexion, de méditation, parce qu'il est isolé de tous les bruissements que l'on pourrait connaître à la surface. Et ce qui est intéressant avec justement cette plongée au cœur de la caverne, et notamment celle de Platon, c'est qu'on s'aperçoit qu'elle est d'une universalité, voilà, nulle autre pareille, elle traverse les époques, elle est, alors malheureusement ou pas, choisissez votre partie, mais elle peut être aux époques modernes réinvestie d'une force incomparable. On a souhaité justement, dans le cadre de cette exposition, tout en appuyant justement cette référence autour de la caverne qui constitue le point de bascule, hein, entre l'enfer rougeoyant, l'enfer au sens presque chrétien, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, aux enfers pluriel antique, avec leur versant positif. On a voulu articuler justement tout ça autour de la caverne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est confronté avec ces univers souterrains à des choses invisibles, impalpables, très souvent imaginaire, et en même temps ça pose la question de ce que l'on peut croire, ce que l'on ne peut pas croire. Dans l'exposition, on l'illustre avec deux œuvres très très différentes, une œuvre assez classique finalement d'un peintre maniériste, Michel Coxy, qui donne, voilà, avec le style qui est le sien, des couleurs très très vives, des corps extrêmement serpentins, voilà, une assemblée d'hommes enchaînés qui observent justement ces ombres dans le plus profond de cette caverne. Et face à lui, alors, une œuvre qui est assez étonnante, pour pas dire saisissante, très contemporaine, une œuvre de Wang Yongping, une œuvre chinoise qui date de 2009, et qui est littéralement une caverne, véritablement un gros bloc au cœur même de l'exposition, dans lequel, alors voilà, on est tenté de vouloir plonger, savoir ce qui se passe à l'intérieur justement de cette caverne. Et c'est là où la démarche de l'artiste est très forte, c'est que on ne peut pas rentrer dans cette caverne, mais on peut regarder. ce qui s'y passe. Un trou est ménagé pour pouvoir comprendre ce que cache justement ce rocher. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement le mythe de la caverne est d'une criante modernité. Au centre de ce rocher, l'artiste a disposé des sculptures assises, en cercle, qui se tournent le dos. On comprendra par la suite pourquoi, puisqu'il s'agit de sculptures représentant des Bouddhas et des Talibans. Au centre de la ronde, une lanterne magique qui tourne et qui projette sur les parois face au personnage des chauves-souris. Et donc finalement ça pose la question aussi au-delà de simplement de l'ignorance, de la peur de l'autre et puis de la peur des images peut-être véhiculées par les autres, avec une référence ici évidente à la destruction des Bouddhas de Bamiyan au début du 21e siècle. Et effectivement cette caverne platonicienne, elle est vraiment le cœur de la réflexion, puisque tout s'organise autour de ces références entre l'imaginaire, le réel, croire, ne pas croire, et surtout que croire et que ne pas croire.
Et avec cette idée d'entrer, d'ailleurs, dans ces mondes souterrains, et ce passage est très important, cette porte d'entrée. Alors, c'est l'entrée, le petit trou qu'on va découvrir et qui va nous permettre d'explorer un peu en spéléologue. Et puis, de manière plus symbolique, il y a l'entrée des enfers. Tous ces moments de passage sont très importants et ça doit être intégré dans cette réflexion sur les mondes souterrains. Dites-nous, Jean-Jacques Terrain, ça ressemble à quoi, à la porte des enfers? Ça peut prendre toute forme.
La porte des enfers, d'abord, c'est un mélange d'inquiétude et de curiosité. Comme l'entrée d'une grotte, comme le petit trou de la caverne dont on vient de parler. Et tout au long de l'exposition, là aussi, on comprend à quel point cette curiosité intense qui se reflète sur la science et sur la littérature et qui est emprise d'appréhension. Et ce mélange, on le sent même dans l'œuvre et dans l'attitude des artistes vis-à-vis de ce qu'ils peignent. Certains restent un peu à l'extérieur, regardent ça de loin. D'autres y pénètrent, mais en mettant juste le petit bout du doigt, de pied. Et puis d'autres y entrent avec beaucoup plus de ferveur, d'initiative, d'audace. Et on sent bien, jusqu'à la dernière œuvre de l'exposition, on sent bien ce paradoxe qui marque toute la relation au monde souterrain.
Cette dernière œuvre de l'exposition nous conduit chez les pré-raphaéliques. C'est bien ça? De quoi s'agit-il pour cette dernière œuvre?
Alors, c'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Strudwick, qui a été élève de Burne Jones. Burne Jones qui est également présent d'ailleurs dans l'exposition. Cette œuvre s'appelle en français Le fil d'or. Et qu'est-ce qu'elle nous représente, cette œuvre? Elle est composée en registres superposés dans la verticalité. Au registre inférieur, on est véritablement, littéralement, dans le monde souterrain, dans une grotte, en compagnie d'habitantes très célèbres du monde souterrain, puisqu'il s'agit des parcs qui tissent le fil de la vie des mortels. Et on les voit représentés en train donc d'œuvrer à ce filage. Au-dessus, au registre médian, on se situe sur Terre, dans le monde concret des vivants, avec une scène teintée d'une esthétique assez médiévale, et puis peut-être aussi de galanterie, hein, une jeune musicienne qui écoute les paroles d'un galant chevalier qui est descendu de sa monture. Et au registre vraiment supérieur, au-dessus de toute la composition, une allégorie qui représente un char de l'amour. Peut-être est-ce que le petit dieu est venu lancer ses flèches sur la musicienne et le chevalier. Et finalement, ce tableau, il est intéressant parce qu'il nous pose la question, l'histoire d'amour qui se joue sur Terre avec le génie ailé qui descend du ciel. Est-ce que tout ça peut arriver sans la présence des parcs sous la Terre qui régissent finalement l'écoulement de la vie des mortels? Est-ce que ce que l'on connaît sur Terre a un sens sans ce qu'il y a dessous? Est-ce qu'il y a au-dessus de nos têtes peut exister sans cette réciprocité finalement entre les différentes strates des univers? C'est une ouverture qu'on propose finalement plutôt qu'une réponse à différentes questions posées et qui s'appuie sur des textes ésotériques assez anciens. On pense notamment ici à la table d'Émeraude, à l'Hermès Trismégiste qui affirme ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et nous avons choisi choisi non pas de l'affirmer, mais de le proposer en ouverture pour inviter tous ces voyageurs du monde souterrain à essayer de voir si ils arrivent à tisser des liens justement entre ces différents univers et si les mondes souterrains, ou en tout cas leur traversée dans l'exposition, ne leur permettent pas d'éclairer ce qu'ils croient connaître du monde et de l'univers.
Ces parcs, hein, ce sont ces déesses qui peuvent couper les fils de la vie et ça tient à peu de choses. Tout ça, c'est une œuvre, Le Fil d'Or, de 1885.
Oui, je voudrais compléter ce qu'Alexandre vient d'exprimer en disant que face à ce tableau pré-Raphaëlien, on a installé une œuvre d'un artiste français contemporain, Fantin Leroux, qui, lui, est un arpenteur quotidien et actuel des mondes souterrains, puisqu'il se promène dans les entrailles du métro et d'autres réseaux parisiens pour méditer, pour intervenir lui-même en tant qu'artiste et pour représenter des visions, soit photographiques, soit vidéo, de ce monde un peu parallèle. Hein, il n'est pas sur les quais du métro, vous vous en doutez. Il est dans les arrières-scènes de ce qu'on peut imaginer derrière ce que l'on voit, nous. Et là, il découvre des mondes absolument formidables, des cavernes extraordinaires qui nous rappellent quelque part les Pyrénées, qui nous rappellent les cerveaux noirs qu'évoque Marguerite Yourcenar de notre civilisation. Et là, il nous dit « mais je suis au fond de la Terre et je regarde les étoiles ».
Ben oui, parce qu'il y a toujours ce contact, hein, sans cesse, entre le souterrain et notre monde. Ces étoiles que l'on peut voir ou imaginer, elles sont toujours là dans nos yeux, avec ces évocations sans cesse des enfers. Mais on l'a dit en parlant de ce tableau pré-raphaélique, Le Fil d'Or de Strudwick, il y a aussi question d'amour dans ces enfers.
On connaît la légende d'Orphée. Dans la mythologie grecque, Orphée était le chantre de Thrace. Il charmait même les bêtes. Ses chants le distrayaient de sa femme, Eurydice. La mort la lui enleva. Il descendit aux enfers, les charma et obtint de revenir avec elle sous condition de ne jamais la regarder. Mais il la regarda et fut déchiré par les Bacchantes. Où se passe notre histoire et à quelle époque? C'est le privilège des légendes d'être sans âge, comme il vous plaira.
Jean Cocteau, Orphée en 1950, Alexandre Estaquet-le-Grand. Oui, de l'amour dans cette histoire-là, et c'est ce paradoxe des enfers, en tout cas ces enfers dans une vision antique avec Orphée, mais il y en a d'autres. Puis il y a différentes formes d'amour. Ça peut même être l'amour filial dans le cas d'Aîné. C'est intéressant, cette descente aux enfers. C'est pas rien, ça fait peur.
Effectivement, alors cette descente aux enfers qu'on appelle la catabase, elle est incarnée dans la littérature, dans les mythes et dans les œuvres par différents personnages. Aîné en est une incarnation, hein, la descente aux enfers en compagnie de la Sibylle. Orphée en est une autre version, et effectivement, au travers d'une histoire d'amour qu'on qualifierait aujourd'hui avec nos yeux d'héritier du romantisme, d'histoire tragique, hein, puisqu'effectivement Orphée descend pour ramener son épouse à la surface, et malheureusement il ne va pas y parvenir, hein. On incarne ce récit dans l'exposition avec un tableau de Lérès qui vient de Belgique et qui nous montre une fois encore les parcs, hein, justement, qui président au sort, à la destinée des mortels. À contrario de ça, effectivement, on est toujours dans ce côté de paradoxe, attraction-répulsion. On s'aperçoit que les mondes souterrains deviennent un lieu propice au refuge et également à l'épanouissement, à l'éclosion d'histoires d'amour. On a cherché chercher à trouver différents récits qui permettaient de donner corps justement à cet état de fait. Et dans l'exposition, on s'est penché sur les représentations du mariage entre Bacchus et Ariane. Alors Ariane, l'infortunée sœur de Phèdre qui se fait abandonner par Thésée après être sortie du labyrinthe. Une fois encore, on retrouve le monde souterrain, hein, le labyrinthe où on enferme ce que l'on ne peut pas voir, ce qui crée la disharmonie. Et finalement, une fois que Ariane est abandonnée, elle est découverte par Bacchus qui tombe amoureux d'elle. Il convole en juste noces. Et dans la peinture flamande, ce sujet a été fréquemment représenté et le banquet nuptial, l'union, le mariage des deux personnages a très souvent lieu dans une caverne. Alors, elle peut être totalement souterraine, elle peut être, comme c'est le cas dans l'exposition, plutôt maritime, plutôt côtière, avec l'arrivée des Néréides, des Sirènes et des autres divinités aquatiques. Mais on a vraiment cette idée, effectivement, que le monde souterrain est un abri, est un refuge, et qu'on peut voir y éclore du merveilleux, de la beauté, des histoires d'amour. C'est le cas, donc, dans ces fables qu'on pourrait qualifier de romantique, et on pourrait évoquer peut-être aussi le fait que la méditation, le sentiment mystique puisse aussi en parallèle s'y développer.
La méditation, l'amour, nous sommes loin, Jean-Jacques Thérin, ici d'une vision que l'on a pu évoquer, hein, de monde souterrain froid, humide, terrifiant. Non, là, nous sommes plutôt dans cette lecture positive des mondes souterrains.
Oui, c'est un monde apaisant. La caverne, la grotte devient un monde apaisant. C'est un thème qui va se développer énormément. Déjà chez les Romains, dans les grandes villas romaines, va être repris pendant la Renaissance, dans les grands jardins italiens d'abord, puis à travers l'Europe, c'est un sujet qui va se développer en permanence, on va le retrouver partout. Il est dommage que notre ami Gautier ne soit pas là parce qu'il aurait adoré raconter l'histoire de Palissy.
Gautier Verbecke, qui est un des co-commissaires de l'exposition.
Oui, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et grâce à qui un pan de l'exposition raconte le travail de Bernard Palissy pour Catherine de Médicis aux Tuileries et pour le connétable de Montmorency, et grottes qui ont disparu de la face de la terre, mais dont on a retrouvé des traces grâce aux archéologues, et dans lequel une restitution un peu fragmentaire a été conçue de façon à marquer combien ces grottes ont joué un rôle important à la fois politique et à la fois de plaisir, puisqu'il y en avait à Versailles, comme vous le savez, et qu'il s'y est passé toutes sortes de rencontres amoureuses et politiques. Voilà.
C'est l'architecte qui parle avec ces grottes artificielles, hein, ces constructions.
Ce sont des constructions artificielles, bien sûr. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la liaison qu'il y a entre l'archéologie et l'architecture sur ces grottes, puisque une des sources de cette grotte, c'est la maison dorée de Néron, dans laquelle les artistes tels que Raphaël sont descendus avec des échelles à cordes pour découvrir avec des flambeaux, ont découvert un monde romain qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont qualifié de grotesque et qu'ils ont utilisé dans leur propre peinture et qu'ils ont universalisé à travers toute la planète, je dirais, et en tout cas en Europe, ces grotesques se sont développés d'une façon extraordinaire.
Et oui, ces mondes souterrains sont également des lieux de vie.
Le souterrain de la règle. Nous en avons vu les vastes escaliers, les ouvertures circulaires, les admirables voûtes, les détails de ces cavités, leurs ouvertures circulaires, leurs niches mystérieuses, qui servaient peut-être d'étagères pour placer les denrées au-dessus du sol humide autrefois. Ces niches dans lesquelles on plaçait aussi peut-être de petites urnes funéraires ou des lampes en terre. Toutes les cavités de Limoges étaient reliées entre elles par des couloirs de jonction qui permettaient d'effectuer de véritables itinéraires sous la terre. Aussi, l'aspect de refuge semble-t-il avec celui du stockage des denrées le plus évident, mais ce réseau de souterrains présente irrésistiblement aussi un aspect religieux. Les cryptes, surtout. Entre toutes celles du haut Moyen-Âge, celle de la cathédrale dont la lourde dalle ne se lève que très exceptionnellement.
Visite souterraine de Limoges, les actualités régionales en 1972, Alexandre Estaquet-Legrand, vraiment. Rappelons combien ces espaces souterrains n'étaient pas des espaces fuis, mais dans de nombreuses villes médiévales, mais on a cité l'Antiquité, mais médiévales encore aujourd'hui, que ce soit Provins, que ce soit Limoges, il y a ces réseaux souterrains. Le souterrain fait partie du quotidien de nos ancêtres.
Il fait partie du quotidien, il a été convoité parfois aussi, et il a constitué, avant même l'époque médiévale que vous évoquiez, un habitat naturel. Hein, quand on songe notamment à l'époque préhistorique, hein, on est véritablement dans une forme d'habitat qui d'ailleurs est également un habitat créatif, hein, puisque on pense aux ornements pariétaux qui montrent à quel point justement le monde souterrain est inspirant. Et c'est vrai que il y a toujours eu une relation de fascination, de conquête quelque part aussi du monde souterrain pour y vivre. On le retrouve dès l'Antiquité au travers de différentes pratiques, quelles que soient les civilisations. Hein, quand on se situe notamment en Extrême-Orient, en Mésopotamie, on avait cette démarche qui voulait que à chaque fois qu'un bâtiment était construit, on venait nicher sous ses pieds dans la terre un clou de fondation pour l'arrimer au sol. Donc il y avait vraiment à la fois une volonté religieuse d'empêcher les créatures néfastes de remonter à la surface, mais dans le même temps d'arrimer solidement la structure aux entrailles de la terre. Et effectivement, très très vite, on s'aperçoit que des formes architecturales vont se développer dans les différentes régions du monde, pour tantôt concevoir des sites cultuels, religieux, tantôt des habitats, parfois des villes dédiées aux morts, hein, les nécropoles, mais là on est plutôt dans un autre registre. Et on a voulu faire plusieurs très très gros clins d'œil, on parle plus de clins d'œil à ce niveau-là, à différentes villes justement qui sont aussi importante sur terre que sous terre. Et la première qui nous est venue à l'esprit dans le cadre de cette exposition, c'est Naples. Naples qui effectivement a un réseau souterrain très très conséquent, aussi bien pour les vivants que pour les morts. Et dans l'exposition, on l'a illustré au travers d'un tableau d'Hubert Robert qui représente la grotte du Posilipe, qui effectivement était un lieu peut-être pas vraiment d'habitation, mais en tout cas de passage, un réseau de circulation pour les habitants de compagnie, et qui permettait justement de traverser cette région pour aboutir jusqu'au champ flégréen. Hubert Robert le représente à son époque, une époque où justement cette grotte est toujours empruntée comme une voie de circulation, mais dès l'Antiquité, on a cette volonté de ce rêve un peu fou finalement d'investir le sous-sol pour y vivre et pour s'y déplacer. Ce que l'on connaît très bien aujourd'hui, on a évoqué le métro tout à l'heure avec les œuvres de Fantin Leroux, mais c'est une utopie qui s'est concrétisée au tournant du XXe siècle et qui repose sur un désir finalement de monde souterrain très 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 ancien.
Hubert Robert, le peintre des ruines au XVIIIe siècle, avec, là je m'adresse à l'architecte Jean-Jacques Terrain, faut être bon en voûte hein, pour faire de l'architecture souterraine. Faut que ça tienne en tout cas, faut pas se prendre la roche ou tout le sol sur la tête.
Comme je vous disais, je me suis intéressé au monde souterrain après m'être occupé des coupoles. C'est pas un hasard, finalement. Je dirais qu'il y a deux jalons importants dans l'exposition qui titille un peu plus mon métier d'origine, bien que je m'en sois fort éloigné. Et à la fois, c'est un projet pour moi qui a été assez assez pertinent par rapport à mon métier d'origine. Le fait de travailler en équipe avec des gens de profession, de disciplines très diverses, ça a été quelque chose d'assez fascinant. Je tiens à le dire à un moment donné, c'est que travailler avec des éclairagistes, avec des logisticiennes, avec des scénographes, avec a été quelque chose d'assez fascinant. Mais pour revenir à l'architecture dans l'exposition, il y a deux moments forts. Celle d'abord des prisons de Pyrénées que j'évoquais tout à l'heure, qui sont un peu comme la caverne de Platon, un moment, un déclic important dans l'exposition, parce que tout d'un coup, ce monde foisonnant de diables et diablesses et de dieux et de déesses, etc., finalement devient, à travers les gravures de Pyrénées, un espace sombre et lumineux à la fois, une architecture forte dont il dit que ce sont des prisons, mais au fond...
On dirait des lieux de torture, hein. Il fait ça.
On n'en sait rien.
C'est au milieu du XVIIIe siècle, voilà. Hein, quand Pyrénées fait ses estampes.
Ça va évidemment fortement influencer toute la littérature du XIXe siècle qui va se complaire dans ces mondes. Ça. Et ça, c'est important. Et Marguerite Yourcenar qui dit, mais ce sont nos enfers. C'est le cerveau noir de Pyrénées qui l'a représenté. C'est un déclic, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est ce que Alexandre disait au début de l'émission, il marque ces prisons marquent l'importance de cet inconscient collectif qui va se fourrer au fond des terres. Et puis ensuite, eh bien, il y a la ville. La ville elle-même, qui en fin d'exposition, montre qu'il y a une vie foisonnante qui a commencé il y a une éternité, enfin, au Paléolithique, mais qui a vraiment commencé à vivre comme un urbanisme véritable dans les années 1930, où là on a commencé à théoriser sur cet urbanisme souterrain, avec évidemment le métro comme...
Ça, c'est le lien de tous ces mondes souterrains. Hein. Voilà. Faut juste faire attention de pas se tromper quand on change à Châtelet.
La station de métro du Châtelet a fait un notable progrès dans la voie de l'automaticité. C'en est fini des longues marches harassantes dans les couloirs de correspondance. Le couloir marche maintenant tout seul. Les officiels ont inauguré le tapis roulant de 132 mètres qui, à la vitesse de 50 mètres à la minute, peut véhiculer dans chaque sens 10 000 usagers à l'heure. Quant aux piétons obstinés, ceux qui se refusent à emboîter le pas au progrès, ils pourront emprunter les couloirs latéraux réservés à la marche. On a pensé à tout.
Le tapis roulant, métro Châtelet, dans les actualités en 1964. Ah ben oui, c'est ce jeu permanent, on vient de l'évoquer, au milieu du XVIIIe siècle, ces estampes de Pyrénées, ces prisons, cette architecture extrêmement torturée, et puis la vie, celle qu'on vient d'entendre, période yéyé, c'est ce paradoxe des mondes souterrains, et c'est ce jeu hein, qui correspond d'ailleurs... vu que c'est une histoire très sensorielle, à ce que nous sommes nous-mêmes, cette oscillation sans cesse entre la peur, le plaisir, l'envie, la curiosité. Comment on joue avec tout ça? Parce que c'est un peu l'idée qu'il y a dans cette exposition d'un dialogue entre l'art créé aujourd'hui et puis ces œuvres venues du passé.
Justement, c'était tout l'intérêt de cette thématique qui résonne d'une manière très très particulière à Lens, hein, ancien site minier, donc le monde souterrain incarne presque le lieu. Et ce qu'on voulait, c'était justement montrer que tout ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent, hein, le côté à la fois fascination et répulsion, il était commun à toutes les époques, toutes les civilisations, et pour le faire, quoi de mieux que de réunir au gré du parcours une pluralité, une variété d'œuvres, de supports, d'artistes, de civilisations, qui finalement, de prime abord, ne sont pas spontanément associés les uns avec les autres, mais qui, au gré de ces réflexions autour des grands enjeux et des grands thèmes du monde souterrain, et bien finalement, acquiert un sens nouveau et révèle justement à quel point on est fasciné par ces mondes souterrains, bien qu'ils nous fassent peur. Hein, la littérature d'Edgar Allan Poe, par exemple, en est une très très bonne incarnation. Le cinéma actuel également. Et en même temps, on a peur, mais on cherche à explorer et on cherche toujours, toujours de plus en plus loin. Et on cherche aussi, surtout toujours, à actualiser ce monde souterrain et peut-être aussi à actualiser grâce aux lumières souterraines les différents soubresauts qui marquent nos époques. Et c'était véritablement ça l'enjeu pour nous de créer ces passerelles et de montrer à quel point c'est un thème universel qui résonne d'une manière très individuelle, certes, mais systématiquement chez chacun d'entre nous, en fait.
Avec la certitude qu'au moment où la science progresse, il n'y a plus cette question de savoir si la Terre est pleine d'eau, de feu ou d'air, de vide, malgré tout, ça n'empêche pas l'imagination. Et l'imagination est toujours là, est toujours très présente. Vous l'avez évoqué, hein, cette exposition « Monde souterrain, 20 000 lieues sous la Terre », c'est au Louvre Lens. Et c'est très important de rappeler combien, dans cette région, Lens, cet univers souterrain, est omniprésent.
Aïe !
Qu'est-ce qui vous arrive ?
Ah, je me suis cogné. Sans mon chapeau de cuir, j'avais la tête fendue.
Mais il faut se baisser. Quand on n'a pas l'habitude, vaut mieux ouvrir l'œil.
Et ça glisse. J'ai de la peine à me tenir debout.
Bah, pas étonnant, l'eau soigne de partout.
J'aurais jamais cru qu'il y avait tant de vases. Par moments, on a les pieds dans l'eau, jusqu'à la cheville.
Oh, bah, ça, c'est rien. Le plus pénible, c'est les changements de température.
On dirait qu'on vous souffle. Tantôt du feu, tantôt de la glace.
Ah, et voilà la veine Guillaume. Et maintenant, grimpez dans la fissure que vous voyez là. Et accrochez votre lampe après vous, montez les échelons en bois. Là.
Bon Dieu, c'est pas large. On est comme des ramoneurs dans une cheminée.
Allez, allez, avancez.
Oh, j'ai les mains arrachées. Et ces roches qui vous pèsent sur les membres. Si encore on avait un peu d'air.
Germinal, évidemment, le roman d'Émile Zola en 1885. Ici, c'est une adaptation radiophonique de Georges Wisson en 1952. Jean-Jacques Terrain, il y a vraiment ce paradoxe des mondes souterrains, c'est-à-dire il y a la possibilité d'enrichissement, trouver le trésor souterrain, ou dans le cas des mines, c'est plutôt l'enrichissement de certains qui, eux, ne descendent pas dans la mine. Et puis, il y a ce labeur très dur décrit par Zola. Un monde de paradoxe, en fait, ce monde souterrain, sans cesse paradoxe, mais c'est en cela qu'il est passionnant.
Alors, nous voulions et nous devions donner une place aux mineurs et à la mine dans cette exposition. Mais nous ne pouvions pas faire non plus une exposition dans l'exposition. Et ce qui était très complexe, parce que on aurait pu largement, et je crois que ça a été fait par ailleurs, faire une exposition sur les mines. Et donc, nous avons souhaité donner à cet aspect du monde souterrain une place toute particulière. Et pour cela, nous avons placé le mineur à un endroit très, très, très particulier, derrière la caverne de Platon, donc au centre de la connaissance. La connaissance, comme dit Novalis, vous êtes les astronomes du monde souterrain, les astrologues du monde souterrain. Et nous l'avons mis de façon à ce que ce mineur soit représenté comme un héros. Certes, travailleur, mais un héros. Et donc, nous l'avons, et ça, c'était une des difficultés de la scénographie que notre ami Mathis Bouchard a bien réglé, c'est que nous l'avons mis en relation avec les héros de l'Antiquité, d'un côté. Il y a donc une ouverture visuelle et physique entre le héros mineur représenté dans toute sa virilité, j'allais dire, mais il y a également une femme.
Bah, dans Germinal, c'est vrai que le personnage féminin est très
donc,
important. Oui.
Donc, dans toute sa force puissante. Et donc, on l'a mis en relation à la fois donc, avec les héros de l'Antiquité et à la fois avec ce que nous avons appelé le cabinet de curiosité, dans lequel il y a des choses extrêmement précieuses, telles le régent, qui est ce bijou,
le diamant.
Ce diamant Philippe d'Orléans a acquis en Angleterre. Et puis, à côté, nous avons mis des fossiles qui ont été remontés par les mineurs et qui sont à même niveau, je dirais, de qualité d'image de ce que ce cabinet de curiosité voudrait représenter.
Une histoire très riche, une exploration en fossiles, et ça c'est déjà pas mal. Monde souterrain, 20 000 lieues sous la terre. Merci vivement à tous les deux, Alexandre Estaquet-Legrand et Jean-Jacques Terra, de nous avoir présenté cette exposition. C'est au musée du Louvre-Lens. Ben voilà, ça donne envie de creuser le sujet, vous l'avez dit. Merci vivement à tous les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Je ne parviens pas à respirer.
Courage, on y est bientôt.
Je n'aurais jamais cru que ce soit si dur.
Pourquoi l'ouvrier Georges Navelle est-il devenu un révolutionnaire désenchanté ? L'itinéraire de Georges Navelle, né à Pont-à-Mousson en 1904 et mort à Die en 1993, est un bel exemple pour comprendre comment des individus dont le métier n'est pas l'écriture parviennent malgré tout à s'engager dans une activité littéraire. Tout au long de sa vie, Navelle a exercé d'innombrables métiers. Ajusteur, terrassier, cueilleur de fruits, jardinier, ramasseur de sel, apiculteur. Ce sont ces expériences qu'il a racontées dans plusieurs romans autobiographiques et notamment dans le livre intitulé « Travaux », publié en 1945. Ces ouvrages sont aujourd'hui encore des témoignages irremplaçables pour les historiens du monde du travail au XXe siècle. Mais dans cette chronique, j'ai voulu insister sur une autre dimension de son œuvre. Navelle a écrit que, dans son enfance, il avait détesté l'école avec la même intensité que tous les lieux où il m'a fallu vivre, enfermé, école, usine, caserne. Et il explique comment ce refus de l'enfermement s'est d'abord traduit dans ses engagements révolutionnaires, pour déboucher finalement sur un certain désenchantement. Georges Navelle était le fils d'un paysan lorrain, recruté comme manœuvre dans l'usine sidérurgique de Pont-à-Mousson. En 1918, sa famille émigra à Lyon, et c'est là qu'il noua des liens avec les milieux anarchistes et communistes. Grâce à ses militants, il put donner une signification politique aux réflexes qui le poussaient à fuir tous les lieux de pouvoir. En 1925, il voulut défendre la République du Rif, que j'ai évoquée dans une autre chronique, en lutte contre le pouvoir colonial français. Mon projet était de franchir sans passeport la frontière espagnole pour m'engager au Tercio et arriver au Maroc, de déserter pour passer du côté des tribus insoumises. Mais il ne poussa pas l'aventure jusqu'à son terme, car une autre opportunité d'échapper à l'enfermement se présenta à lui quand des ouvriers forestiers itinérants l'invitèrent à se joindre à eux. Une dizaine d'années plus tard, il eut une nouvelle possibilité de traduire politiquement son tempérament contestataire. « Il y a un pays où on fait la révolution, c'est l'Espagne. » Je sens qu'il est de mon devoir d'aller là où elle commence, d'être participant et témoin de l'événement. Engagé dans un bataillon anarchiste de la CNT, il fut très vite gagné par le désenchantement, motivé notamment par la désorganisation qui régnait au sein de cette troupe. Affaibli par des troubles gastriques, après un mois et demi passé en Espagne, il quitta définitivement le pays. Mal en point, mais non blessé, les remords et les tourments de conscience m'agitent. J'échappe au danger avec trop de soulagement. Navelle découvre alors que son refus de l'enfermement l'incite aussi à fuir l'embrigadement dans les organisations révolutionnaires. Il démissionne du Parti communiste pour reprendre sa vie errante. Navelle est resté néanmoins ce qu'on a appelé un compagnon de route du PCF. Quelques décennies plus tard, quand son existence est devenue plus stable, il a été recruté comme correcteur d'imprimerie au journal L'Humanité, métier qu'il a exercé jusqu'à sa retraite au début des années 1970.
Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi, une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.